Et vous écoutez toujours Radio Entre Deux Mers, il est 11h et tout de suite c'est l'heure de retrouver votre émission Conversation autour du cinéma. Voilà, Conversation autour du cinéma. Anne est avec nous pour cette nouvelle émission, mercredi, jour des sorties. Anne, bonjour.
Bonjour, bonjour Mathieu, j'espère que tu vas bien.
Ah bah écoute, ça va bien, oui, et toi?
Oui, bah oui, bah écoute, tu sais bien, hein, dès qu'on est avec les auditeurs, youpi.
Et oui.
C'est chouette comme tout. On est très contents de les retrouver, on voudrait bien les avoir à côté de nous. Hein. Bah ouais, mais la radio, malheureusement... Ce n'est que le son, la voix, et pas l'image.
Eh oui.
Donc, tu veux que je parle de cinéma, peut-être ?
Oh bah écoute, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve, avec premier film.
Ah bah.
Alors, aujourd'hui, la bonne nouvelle, cette semaine, on démarre directement par un film avec Revoir Paris, un film français.
Yes ! Ouais, oh bah oui, Revoir Paris, dadadadada. Ça ne te rappelle pas la chanson ? C'était Aznavour, ça, non ? Revoir Paris, non ?
Oula, je ne saurais te dire.
Revoir Paris, mes amis. Ah non, c'était Joséphine Baker. Revoir Paris, Joséphine Baker. Je suis sûre qu'on a des auditeurs qui connaissent. Alors, Revoir Paris, ben, c'est un drame français qui dure 1h45, réalisé par Alice Winocourt. Alice Winocourt, c'est une réalisatrice scénariste française. Elle a 46 ans, elle a 18 ans de carrière quand même. Elle a commencé toute petite.
Ouais.
Et puis elle a 13... Ouais, eh ben oui. Elle a 13 tournages à son actif. Voilà. Donc, par exemple, on lui doit en 2015 le film Maryland avec Diane Kruger et Mathias Schoenaerts. C'était d'ailleurs, elle a eu 8 nominations au Festival de Cannes. Voilà, l'histoire d'un garde du corps traumatisé par la guerre et qui perçoit une menace extérieure sur Maryland. Il avait très bien marché, hein, ce film. Et en 2016, elle a obtenu le César du meilleur scénario original pour le film Mustang. Ça se passait dans un village turc. Il y avait 5 sœurs qui déclenchaient un scandale en jouant avec des garçons. C'était des actrices turques, d'ailleurs, qui jouaient. Donc là, il s'agit de quoi ?
Oui,
alors,
cette
histoire.
Alors,
on a un avertissement, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. 3 mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'événement que par bribes, Mia décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible. Alors, on a un beau casting. Ah ouais, un très beau casting. Virginie Efira, qui joue le rôle de Mia. On a Benoît Magimel. On a Grégoire Collin. Grégoire Collin, tu te souviens, on a parlé de lui il n'y a pas longtemps pour Amour et acharnement, le film qui est sorti le 31 août. Tu t'en souviens, Mathieu, de celui-là ?
Grégoire oui, Collin. Oui, tout à fait, oui.
Hein, voilà, il y avait Vincent Lindon, Juliette Binoche. Mais décidément, ça marche pour cet acteur-là. Hein. Impeccable, hein, Grégoire Collin. De toute façon, il a beaucoup de talent. Alors, on a Maya Sansa aussi, qui est une actrice italienne. On a Amadou Embo, qui est un acteur sénégalais. On a Anne-Lise Heimberger. On a Sokem Ringue, dit Kemso. Hein? Non, c'est Kemso, on le connaît, Kemso. On a Nastia Golubeva Carax, qui a 17 ans, cette petite, dans le film, et qui est la fille de Léo Carax, qu'on connaît également comme grand réalisateur. Donc le film, quand même, je ne l'ai pas dit, mais il a 2 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2022. Alors, mes chéris, là, franchement, si vous êtes sensibles et si vous avez été touchés énormément quand même hein, par tous les attentats qu'on a connus, bah, ce film est pour vous absolument. Hein. Il vous plaira. C'est titré d'ailleurs « Saisissant, un beau film consolateur ». Ephira et Magimel étincelant, un film d'espoir et d'émotion. Voilà comment ça a été titré dans la presse. Alors, bon, le titre du film, en fait, appuie l'idée de regarder Paris autrement. Voilà, c'est ça le truc de la réalisatrice, c'était son désir, hein, qu'on regarde Paris d'une autre manière. C'est une fiction. Effectivement, au revoir Paris. Mais c'est quand même, ça fait indéniablement penser aux attentats de 2015. Hein. Évidemment, ceux de Charlie Hebdo, mais surtout du Bataclan, bien sûr. Et la réalisatrice nous dit, mon frère était au Bataclan le 13 novembre. Pendant qu'il était caché, je suis restée en lien SMS avec lui une partie de la nuit. Alors le film, en fait, s'est construit à partir des souvenirs.
Ah, nous avons perdu Anne. Zut. Plus de connexion. Bon, eh bien, en attendant qu'Anne revienne, je propose qu'on lance la bande-annonce de Revoir Paris. Tout de suite, donc. Hop, je vous propose d'écouter la bande-annonce de Revoir Paris. Vous écoutez Conversation autour du cinéma. On attend le retour de Anne. Tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ah, décidément, hein. Allez, on reteste ça.
Effacer de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé. Je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant. Il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs ? C'est là où mes parents étaient assis.
Vous vous souvenez de moi ?
Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?
Vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, mais vous n'avez pas ouvert.
J'ai pas fait ça.
Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé.
Pourquoi vous voulez vous souvenir ?
J'aimerais bien retourner au musée où ils ont été. Pour la dernière chose qu'ils ont vue, j'aurais l'impression de leur dire au revoir.
Que fasse ce qu'on aurait dû faire ce soir-là.
Comment ? Vincent,
allez.
Qu'est-ce que tu fais?
Allez, ça a assez duré, là. J'aurais préféré y être dans ce putain d'attente.
Je suis pas sûr que de te souvenir, ça, ça puisse t'aider.
Avant, je me demandais jamais si j'étais heureuse. Maintenant, oui.
Vous connaissez la différence entre un crocodile et un alligator ?
Ta gueule,
Rassane ! Ok, on verra ça plus tard. Ça y est. Parlons d'abord des Bronzés, le deuxième film de Patrice Lecomte.
Bon.
Voilà, de retour dans Conversation autour du cinéma avec Anne. Anne qui est avec nous à nouveau.
Oui, il y a eu un petit souci.
Eh oui, un petit souci de déconnexion. J'ai lancé la bande-annonce de Revoir Paris, du coup.
Oui, je t'en parlais justement au moment où il y a eu le problème.
Ouais. Donc voilà. Alors, donc Revoir Paris. On vient d'écouter la bande-annonce.
Oui, voilà. Très, très beau film.
Très beau film, donc qui revient sur la gestion des attentats de Paris.
Tout à fait, eh oui. Malheureusement, mais enfin, il est à voir hein, quand même, hein, parce qu'il est très très bien fait.
Puis Virginie Fira, toujours impeccable.
Ouais, tout à fait. Ensuite...
Nous avons Le Tigre et le Président de Jean-Marc Peyrefitte.
Eh oui, Le Tigre et le Président, c'est une comédie, c'est historique bien sûr. Et c'est français et belge.
D'accord.
Alors Jean-Marc Peyrefitte, ouais, il est réalisateur, adaptateur, acteur, il est scénariste, il est producteur, il est monteur de cinéma français. Il sait tout faire cet homme-là. Et Marc Sirigas, a travaillé, est un scénariste qui a travaillé avec lui sur ce film. Donc il avait Il avait présenté un court-métrage en 2009 qui s'appelait « Et toi ?», qui durait 10 minutes et qui a eu une nomination au Festival du film de Cabourg en 2010, mention spéciale court-métrage. Donc, il s'est lancé dans le long-métrage et « Le Tigre et le Président » est son premier long-métrage. Voilà. Grâce à ce court-métrage qui a très, très bien marché et qui l'a lancé chez les grands. Voilà. Donc, ça se passe en 1920, les années folles. Ah, ben oui. Georges Clemenceau vient de perdre l'élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir, ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président. Une occasion en or pour le tigre Clemenceau. Eh oui, c'est lui qu'on appelait le tigre. Et c'est pareil, là, j'ai un joli casting. Très, très joli casting. Jacques Gamblin joue Paul Deschanel. André Dussolier joue Georges Clemenceau. On a Christian Eck, sociétaire de la Comédie Française, qui est un acteur belge dans ce film. On a Anna Mouglalis, on a Cyril Couton, on a Patrick Dassoum-Sao, oh là là, on les connaît. On les connaît presque tous, si on a l'habitude d'aller au cinéma, on les reconnaît. Même si on n'a pas trop retenu les noms, toujours, c'est pas évident. Cyril Couton, on a Laura Benson aussi, qui est une actrice franco-britannique. Et on a Astrid Wetnal aussi, qui est une actrice belge. Dans les rôles principaux. Alors, le film a une nomination à Angoulême, Festival du film francophone 2022, catégorie première, avant-première, pardon. reporter. Découvrez l'histoire extraordinaire d'un président totalement oublié. Voilà ce qui est noté quand même. Alors ça revient, le film revient sur l'élection de Paul Deschanel en 1920, qui remporte les présidentielles face au favori Georges Clemenceau. Alors, en fait, victime d'un état anxio-dépressif, Paul Deschanel, hein, et du syndrome d'El Pénor, il fait une chute du train nocturne en mai 1920. Alors, suite aux nombreuses rumeurs qui circulent à son sujet et en raison de sa santé déclinante, Deschanel démissionne en septembre de l'Élysée. Alors, en fait, le film annonce dès le début qu'il s'inspire de faits réels. Et le réalisateur assume d'avoir imaginé quelques éléments du film quand même. Hein. Par exemple, il nous dit « Nous nous inscrivons dans la grande tradition du roman historique qui, selon sa définition, prend pour toile de fond un épisode, parfois majeur, de l'histoire auquel il mêle généralement des événements et des personnages réels et fictifs. » Voilà comment expliquer certains éléments du film qui s'éloigne de la réalité. Alors, par exemple, il y a la scène, par exemple, du Conseil des ministres où Deschanel congédie un membre de son gouvernement. Bon, bah, cette scène-là est fictive. Celle aussi où Clemenceau conseille le Véronal à Germaine Deschanel. C'est fictif aussi. Hein. Effectivement, hein, ce sont des scènes, voilà. Et c'est, il y a trois biographies quand même hein, qui ont déjà été consacrées à Paul Deschanel. Mmh. Alors le réalisateur, lui, il s'est appuyé principalement sur celle qui avait été écrite dans les années 80, écrite par Thierry Billard d'ailleurs, parce qu'il trouve qu'elle le valorisait. Voilà, elle valorisait Deschanel contrairement à celle des années 30 qui le fustigeait. Il préférait, lui, le valoriser. Ouais. Moi, je crois qu'il a eu raison de toute façon. Voilà, voilà donc pour le tigre et le président.
Est-ce que tu veux qu'on écoute
je
la bande-annonce?
Tu avais une bande-annonce.
Eh oui, 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 j'ai une bande-annonce.
Mais bah, eh ben voilà.
C'est parti.
Georges Clemenceau, candidat à la présidence de la République.
Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République.
Vous avez entendu quelqu'un, Milan?
Monsieur Clemenceau,
vous avez gagné la guerre.
Laissez-nous gagner la paix.
Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre.
C'est vrai. Vous êtes fini.
Monsieur le Président,
je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes.
Et aujourd'hui, le ravi de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ses idées d'enfant de 6 ans.
Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent.
À quoi bon dépouiller le double de bulletins pour obtenir le même résultat?
Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais acceptée dans quel cas?
Aucun cas.
Ah, les idées saugrenues, j'en ai eu, hein.
Tellement absorbé par l'écriture de son grand discours, qu'il en oublie totalement ce qu'il fait.
Ah! Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Paul Deschanel, président de la République.
Étienne Radeau, reine d'Angleterre.
Disparu.
Volatilisé.
Avec lui, il faut s'attendre à tout.
Vous êtes bourgeois.
Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'élection.
Votre discours.
Le pays retient son souffle.
J'y travaille.
C'est pas tous les jours facile de changer la France.
Énorme affiche donc pour Le Tigre et le Président, ouais, avec André Dissioli et Jacques Gamblin.
Ah ouais, moi j'adore cette bande-annonce, hein, franchement. Qui est très drôle.
Ah, au top.
Bon, voilà. Ah ben on va passer à autre chose. Hein.
Alors, un film qui nous vient d'Internet au départ, c'est la version grand écran d'une saga sur le web qui avait cartonné. Il s'agit du Visiteur du futur de Francis Descraques.
Tout à fait. Alors, ça dure 1h42. Alors bon, bah, c'est de la comédie, c'est de la science-fiction. Et c'est français, puisque Francis Descraques est un réalisateur, scénariste, créateur. Il est créateur également, il est acteur, j'allais dire. Non, c'est créateur-acteur français. Il a 37 ans, il a 5 ans de carrière et 5 tournages à son actif. Il est auteur en fait de plusieurs séries françaises. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'a que 5 tournages et qu'il n'a rien fait. Hein. Ouh là là, pas du tout. Entre 2009 et 2021, il n'a pas arrêté de travailler pour ces fameuses séries françaises. Alors, on va tout de suite dire de quoi il s'agit. Hein. Ça se passe en, attention, 2555. Est-ce que tu crois qu'on sera encore là, Mathieu, en 2555, non ?
Mais évidemment.
On sera plus. Non.
Mais si, on aura des membres mécaniques, des petits robots qui nous répareront en temps réel.
Oui, on aura Ben oui, on sera robots, en fait, on sera robotisés, on sera devenus des robots. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre, pour le visiteur du futur. Et alors là, on met des points de suspension. Parce que ça n'est pas terminé, cette affaire. Alors, on a le visiteur, justement, ce fameux visiteur, est joué par Florent Dorin. Florent Dorin, qui est assez épatant, d'ailleurs. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Il est assez épatant. Alors, on a Arnaud Ducret. On le connaît, on a Enya Barou, on la connaît, on a Raphaël Descraques. Alors Raphaël Descraques, c'est le petit frère de François Descraques, le réalisateur. Voilà, il a 31 ans, il est né à 37 ans. Bon, ça va, hein. Il n'y a pas beaucoup d'écart. On a Audrey Pirot dans les rôles principaux, Mathieu Poggi, on a Vincent Tirel, on a Slimane Baptiste Beroun aussi. Voilà, c'est une suite effectivement, parce que en fait le visiteur du futur est adapté, tu l'as dit, hein, de la web série Le visiteur du futur, qui est sorti en 2009. Il y a eu 4 saisons et 57 vidéos en fait, hein, en tout. Donc c'est le qui avait le même nom, voilà, et qu'il a d'ailleurs lui-même scénarisé et mis en scène. Eh oui, c'est lui. Ben oui, je disais qu'il avait travaillé sur des séries, justement. Voilà. Donc, c'est quand même... ces 4 saisons ont généré quand même 45 millions de vues. Hein. Il y a eu des bandes dessinées, il y a eu un roman, et même, il y a même eu un jeu de plateau. Ah oui. Tout a commencé en 2009, nous dit le François Descraques. Hein. Dans ma petite chambre d'étudiant, avec mon ami Florent Dorin, celui qui joue le visiteur, on voulait faire de la science-fiction, on adorait ça. On avait en tête des films comme Retour vers le futur ou Terminator, mais on n'avait vraiment pas les moyens qui vont avec ce genre d'idées. Eh bien oui, parce qu'il fallait les moyens quand même. Effectivement, ben là, il les a eu les moyens. Oui, carrément, pour faire son chouette film. Alors écoutez mes chéris, il y en a peut-être beaucoup qui connaissent la série en fait, qui ont vu quelques épisodes ou tous les épisodes. En tout cas, moi je pense que si vous avez aimé, bah, ce film est pour vous tout à fait. Hein. Complètement même. Voilà.
Oh, il y a de fortes chances, oui.
Oh, bah oui.
Allez, bah, le visiteur du futur, du coup, je te propose qu'on écoute la bande-annonce alors.
Oh mais merci, j'allais te le demander.
Eh, t'as vu.
Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer.
C'est quoi ça ? On est où ?
Dans le futur.
Ta centrale va exploser, papa.
Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute.
Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer !
Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages.
Il est bien gros, là.
Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer.
Lui et ses complices sont notre priorité. Ses actions peuvent briser le continuum espace-temps.
Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, le Clodo a disparu, je suis perdu, là.
3, 2...
J'entends des chiffres, mais à l'envers. 1...
La compte à rebours.
C'était ça les chiffres.
Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde.
Vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir venir.
Oh putain!
Et voilà donc le visiteur du futur.
Et oui, en fait, c'est un film sur le conflit entre générations, hein, finalement. Et comme nous dit le réalisateur, quand on a 50 ans, on ne voit pas du tout le futur de la même manière qu'à 20 ans. Alors, les jeunes envisagent l'avenir à long terme. Ils ont pleinement conscience du temps qu'ils ont devant eux et tout ce qui peut arriver. Eh bien oui, oui, c'est ça, effectivement. Et c'est un film, en fait, qui pose simplement la question de la relativité du temps et de nos actions. Un bienfait à court terme vaut-il une tragédie à long terme? On se pose la question. Et les deux points de vue se valent dans le film, en fait. Alice et son père ne sont pas des personnages de comédie, on est d'accord là-dessus. Voilà.
Ouais.
Le visiteur du futur.
Allez, un nouveau film maintenant de Jérôme Salle, qu'on a déjà vu, réalisateur expérimenté, qui nous propose Compromat.
Oui, alors lui, on le connaît absolument, Jérôme Salle, réalisateur, scénariste, producteur français. Il a 55 ans, il a 21 ans de carrière, 16 tournages à son actif. En tout, il a récolté un prix, 7 nominations, prix de la meilleure performance en Blu-ray, film français pour Largo Winch 2. Avec Thomas Sisley, Sharon Stone. Il a eu également le grand prix de la vidéo et de la VOD en 2012. Voilà. Et puis il a eu aussi, il a eu deux nominations pour un film qui a très bien marché, qui est sorti en 2013, Zulu. Il a eu ses nominations à Cannes 2013. Il y avait Forest Whitaker et Orlando Bloom dans ce film. Et en 2016, on a vu L'Odyssée. Alors, une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême en 2016, L'Odyssée, c'est l'histoire du commandant Jean-Yves Cousteau. C'était Lambert Wilson qui avait pris le petit bonnet rouge du commandant Cousteau et Audrey Tautou qui jouait son épouse. Et là, Compromat, c'est quoi ça, Compromat? Ça se passe en Russie en 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d'un compromat, de faux documents compromettants, utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l'État. Menacé d'une peine de prison à vie, il ne lui reste qu'une option, s'évader et rejoindre la France par ses propres moyens. Ah oui, là, c'est quand même un thriller. Hein. C'est un thriller français qui dure 2h07. Et qui a, pareil, il y a un joli casting. Là. On a Gilles Lellouche qui joue donc Mathieu Roussel. Il est assez exceptionnel, Gilles Lellouche, là. Hein. Vraiment. Il sait un peu tout faire, cet acteur, finalement.
Immense acteur et réalisateur.
Drame, et réalisateur également. Mais il sait tout faire, hein, il sait à peu près tout jouer. Et je trouve qu'avec les années, il a vraiment progressé d'une façon extraordinaire, Gilles Lellouche. Donc il est Mathieu Roussel. On a Joanna Kulig, qui est une actrice polonaise dans les rôles principaux. On a Mikhaël Gorevoy, qui est un acteur russe. Et on a Danila Vorobiev, qui est une actrice russe. On a encore un actrice, oui, Alexei Gorbunov. On a Pierre Anas. Alors, Pierre Anas, c'est un acteur français. On le reconnaît. Quand on le voit, on sait que c'est lui. On l'a déjà vu. On a une actrice britannique aussi, Elisa Lazowski. On a Judith Henry aussi, qui est une actrice française qui est connue. Alors là, c'est sûr. C'est pareil, hein. On la voit, on sait qu'on l'a déjà vu. Bon, c'est un joli casting, franchement. Alors ça, on nous dit que c'est le coup de poing de la rentrée. Et on nous dit également, vous ne croirez jamais cette histoire. Elle est très librement inspirée d'une affaire réelle, hein, cette histoire Compromat. Malheureusement, et oui, c'est vraiment arrivé quand même. Alors, compromat, c'est un terme russe. Donc, je l'ai dit hein, dans le synopsis, document compromettant, authentique ou fabriqué, évidemment, utilisé pour nuire à des personnalités politiques, un journaliste aussi, pour un homme d'affaires, enfin, en tout cas, pour une figure publique. Voilà, c'est surtout utilisé contre ces gens-là. Alors, le réalisateur nous dit que si ce genre de manœuvre n'est pas rare en Russie, elle concerne d'ordinaire des Russes, plutôt. Alors, pour son film, Jérôme Salle s'est librement inspiré d'une histoire vraie qui avait pour particularité d'avoir impliqué un Français. Voilà, c'est là qu'est la particularité, la grosse particularité de ce film, justement. Parce qu'en principe, ils se cantonnent aux Russes, quoi, quand ils font leur truc leur épouvantable. Bidouille. Quand ils coincent les gens avec de faux documents. Voilà. Il a donc il a écrit son compromat, donc, Jérôme Salle, avec l'écrivain Caril Ferret. D'ailleurs, en 2013, il avait adapté le roman Zoulou, justement, puisque j'ai parlé du film tout à l'heure, de Caril Ferret. Donc, ils se connaissaient. Ils travaillent très bien tous les deux, ensemble, super. Donc, ils ont fait un film extrêmement intéressant.
Et que
Charles Carifferi, oui, c'est lui.
On peut peut-être d'ailleurs écouter la bande-annonce. Est-ce que tu veux?
Oui, bien sûr, bah, j'allais te le demander. Là, voilà.
Alors, de compromat, c'est parti.
Merci.
Bonjour Fabienne, comment allez-vous?
Bonjour Mathieu, ça va et vous?
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Très bien.
Ça va.
Papa!
Oh mon Dieu, j'attends! Comment ça va?
Tu restes avec moi aujourd'hui?
Non, je peux pas, mon cœur.
Вы обвиняетесь в распространении детской порнографии в интернете.
Не может быть. Не может быть.
За что тебя посадили?
Смотрите.
Tout le dossier est constitué de faux, plus ou moins grossier. Compromat?
Pourquoi contre Mathieu? Qu'est-ce qu'il leur a fait?
J'aimerais avoir des nouvelles de ma fille aussi. Je veux voir Alice. C'est tout ce que je te
demande. Слушай, тебя посадят в тюрьму, тебе дадут 10-15 лет. Ты пропадешь.
Француз бежал из Иркутска! Открывай!
Mathieu Roussel, преступник, самый разыскиваемый.
Quelqu'un sait que vous êtes là? Personne ne doit savoir, ni les Russes, ni la presse, personne.
Mais moi, кто-то помог.
Je te présente, Svetlana.
Где этот грёбаный француз?
Я не знаю.
Je ne vais pas mettre en péril nos relations avec la Russie pour vos beaux yeux. Hors de question d'approuver une opération clandestine pour vous faire quitter le territoire.
Он пытается пересечь эстонскую границу.
La seule solution, c'est de vous rendre aux autorités russes.
Mais je suis innocent, bordel!
Et voilà donc le film Compromat, la bande-annonce à l'instant.
Ça doit être agréable d'être soutenu par ses compatriotes comme ça. Hein, c'est-à-dire pas du tout.
Ça ouais.
Terrible hein, dans ces situations-là. On a besoin. Hein.
L'enfer, être perdu dans un pays étranger et en même temps ne pas être soutenu par son propre pays.
Et, ça c'est... C'est terrible. Hein. C'est... Et ça, j'y crois, parce que comme c'était... Effectivement, il y a eu une affaire réelle comme ça là, qui s'est déroulée de la même manière. Effectivement, être lâché par ses compatriotes, ça doit être épouvantable. Mm. Tu dis l'enfer, oui, c'est ça.
Ouais.
Oui.
Alors, elle a priori plus de chance, puisque tout le monde, il paraît, aime Jeanne.
Ben oui, j'allais te demander si tu aimais Jeanne.
Bah écoute, je ne sais pas, on n'a pas été présenté.
Voilà, alors je voulais répondre, tout le monde aime Jeanne, sauf Mathieu.
On a une vieille histoire.
Selon ta réponse, évidemment, voilà. Alors, oui, donc, c'est une... Bah, y a de tout, il y a de la comédie et du drame. Il y a de l'animation. Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Eh ben oui, c'est français, c'est portugais et c'est belge.
D'accord.
C'est réalisé par Céline Devaux, qui est une réalisatrice, scénariste, monteuse française. Elle a 9 ans de carrière. Elle a 5 tournages à son actif. Alors, elle a eu un César du meilleur court-métrage d'animation en 2016, qui dure 13 minutes, Le repas dominical. Et puis, elle a eu un autre prix du meilleur film d'animation francophone, plus 12 nominations, attention, en 2013 également, pour Vie et mort de l'illustre Grigori Efimovitch Rasputin, qui durait 10 minutes. Un prix et 12 nominations pour un court-métrage de 10 minutes. Franchement, ça, c'est beau, comme tout. Voilà, donc du coup, c'est son premier long-métrage. Voilà, elle a pu, comme je disais tout à l'heure, entrer dans la cour des grands. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour les spectateurs, n'est-ce pas mes chéris, tant mieux. Alors c'est quoi cette histoire? Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd'hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l'appartement de sa mère, disparue un an auparavant. À l'aéroport, elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée, fantasque et quelque peu envahissant. Oui, oui, c'est ce qu'on va voir. C'est titré « L'irrésistible duo ». Alors, il s'agit de quel duo? Il s'agit de Laurent Lafitte. Enfin, j'aurais dû commencer par la jeune dame, Blanche Gardin, qui joue Jeanne, et Laurent Lafitte, qui joue Jean. Laurent Lafitte, pensionnaire de la Comédie Française. Irrésistible duo. Oui. En plus, ce sont de grands, grands comédiens, excellents comédiens. On a Maxime Tual, on a Nuno Lopez, qui est un acteur portugais. On a Marthe Keller. Moi, je suis ravie de revoir Marthe Keller. Oh oui, qui est une actrice suisse. Hein. Elle joue Claudia, la mère de Jeanne, Marthe Keller. Toujours aussi charmante. On a Samira Sedira, on a Lisa Mireille, on a Andrew Sanko Logan dans les rôles principaux. Mais oui, alors le film a 3 nominations. Il en a 2 au Festival de Cannes 2022. Et une à la Semaine internationale de la critique 2022. Jolie, jolie. Et alors, quand tu vas nous passer la bande-annonce là, dans quelques secondes, on aime entendre la voix de Gérard Lenormand. C'est très agréable d'entendre sa voix. Alors, elle nous dit, la réalisatrice nous dit, j'ai réussi à parler de chagrin et d'amour, des thèmes importants pour moi, et j'ai découvert pour la première fois le travail avec les acteurs. Je suis heureuse d'avoir fait Gros Chagrin, mais je crois que je suis restée un peu polie. Voilà. Tout le monde aime Jeanne. En fait, Céline Devaux, ce qu'elle voulait, elle voulait surtout parler d'expatriation. C'est une thématique qui est liée à son parcours. Au parcours de Céline Devaux, puisqu'elle n'a pas grandi en France. Et c'est aussi une thématique de l'inquiétude individuelle. C'est-à-dire, suis-je une bonne personne, etc., qui nous concerne tous dans un monde d'incertitude. Voilà ce que nous dit Céline Devaux quand elle parle de son film, justement. Elle développe, nous sommes dans un monde où l'informatique est omniprésente, dans un état de vigilance permanent. Le pire, dit-elle, c'est quand on s'habitue presque à ça. En fait, si on analyse la situation, c'est quasiment la définition clinique de la dépression. Se lever, savoir que tout est merdique et n'avoir aucune possibilité d'agir. Voilà ce qu'elle nous dit. Alors, il y a un fantôme dans le film, hein, puisque j'ai dit qu'il y avait de l'animation. Le petit fantôme que l'on voit dans Tout le monde aime Jeanne est une créature chevelue, ni homme ni femme, qui harcèle l'héroïne toute la journée. Alors, c'est une sorte de représentation de la honte, nous dit la réalisatrice. C'est aussi la mémoire de toutes les voix entendues qui s'accumulent dans le cerveau de Jeanne. Voilà, on a l'explication pour le petit fantôme qu'on va pouvoir se régaler à aller voir quand même. Hein. Et voilà. Donc, tout le monde aime Jeanne. En fait, ne serait-ce que pour le duo, effectivement, hein, qui est absolument irrésistible. Ce film est à voir quand même, quoi. 1h35. La bande-annonce, tu l'as, Mathieu? Non.
Pardon, j'avais pas branché mon micro.
Est-ce que...
je l'ai. C'est pour éviter les échos, en fait, je coupe. Donc je te répondais. Alors... Oui, je l'ai, la bande-annonce. Elle est prête D'accord. à partir.
Ok.
Tu es une femme extraordinaire, Jeanne.
Et si je vous dis que vous êtes la femme de l'année?
Mais t'es la femme du siècle, ouais.
C'est beaucoup.
Menteuse. Il lui est arrivé quoi, déjà, à la femme de l'année?
Vous êtes à un poil de la faillite personnelle.
Notre mère est décédée.
Elle vous a laissé des biens.
Un appartement, à Lisbonne.
Moi, je vous dirais de vendre cet appartement.
Ouah, la tronche. Ça se trouve, tu vas être assise à côté de lui dans l'avion. À tous les coups, il va venir te voir. Bip, 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 bip.
Jeanne?
On se connaît?
Bah oui, tu te souviens pas?
Ah,
aucun souvenir.
En tout cas, t'es pas du tout décevante. Et c'est marrant parce que j'avais toujours pensé que t'allais mourir jeune. Donc je suis très content de voir que t'es en vie.
Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs.
Ah. Ouais, Jean, c'est Jeanne.
Elles sont en or, on ne sait jamais.
Faut que j'y aille, moi j'ai rendez-vous avec un agent immobilier.
Ah, tu vends ton appart? Pourquoi tu vends?
Je suis surendettée.
Ah, félicitations.
Tu vas me montrer comment tu fais des cartons.
C'est ça qu'il faut faire, faut bien les ranger.
T'es un peu toc-toc, hein, jeune Meyer.
Non.
Un peu frappe à dingo. J'aime bien.
Non, mais pas du tout.
Moi je t'aime. Où est-ce que tu fumer avec qui?
Il dit que c'est interdit de fumer.
Ah oui, je sais, monsieur, merci. C'est une cigarette électronique, elle ne brûle pas. Tout va bien.
Et voilà, donc tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte.
Oui, et on est content, hein, je disais, d'entendre le Normand un petit peu, Gérard Le Normand, sa jolie voix. Bien, eh ben, on va changer de... Peut-être pas de planète, mais de film en tout cas.
Avec un film peut-être qui bouscule, Rodéo.
Oui, Rodéo, et oui, et oui, oui, oui. C'est un, en fait, c'est un des chocs de Cannes 2022. C'est écrit comme ça, hein, un choc. Ça dure 1h45, c'est un drame. Alors, il y a le prix coup de cœur du jury, c'est un joli prix, ça, hein, au Festival de Cannes 2022, Un certain regard. Et puis, il y a 7 nominations pour ce rodéo de Lola Kivoron. Lola Kivoron, réalisatrice, scénariste française, c'est son premier long-métrage. Elle a 33 ans. Youpi, un beau début. Elle a travaillé avec Antonia Burezi, qui est une scénariste, hein, actrice et scénariste. Alors, en fait, on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Hein. On parle de l'histoire. Julia. Ah, ben, je suis lancée, moi, sur les Julie. Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Ah! Le rodéo qui se profile. Un jour d'été, elle fait la rencontre d'une bande de motards, adeptes du cross-bitume, et infiltre ce milieu clandestin. Ce milieu qui est constitué majoritairement de jeunes hommes, avant qu'un accident ne fasse sa position au sein de la bande. Eh oui, alors, c'est pareil, on a un petit casting sympathique comme tout. On a Julie Ledru, elle est formidable, Julie Ledru, dans le rôle de Julia. Là. Elle est épatante, même, je dirais. Je l'avais notée, d'ailleurs, j'avais mis sur mes notes, elle est épatante.
C'est vrai qu'elle est épatante, voilà. Oui.
On a Yanis Lavki, on a justement Antonia Burezi, hein, qui joue dans le film, la scénariste qui a épaulé Lola Kivoron. On a Junior Correa, on a Ahmed Hamdi, on a Chris Makodi, on a Louis Sauton dans les rôles principaux. Donc c'est titré un sublime premier film, spectaculaire de maîtrise. Eh oui, il faut dire que quand même, le cinéma pour elle, c'est quelque chose qu'elle connaît absolument, puisqu'elle a réalisé 4 courts-métrages entre 2013 et 2016 qui ont reçu des prix. Elle a réalisé un documentaire en 2019 également, avec Antonia Burezi, justement. Elle l'avait co-réalisé avec elle. Et au loin Baltimore. Et donc, le cinéma, elle connaît quand même. Donc là, elle a fait un premier long-métrage qui ravit absolument la presse, apparemment, et qui va certainement ravir les spectateurs qui vont aller voir ce film. Elle connaît bien le milieu des rodéos, Lola Kivoron. Lorsqu'elle était enfant, elle habitait à Épinay-sur-Seine, c'est ce qu'elle nous dit, et elle voyait des jeunes en moto, c'était des motocross d'ailleurs, qui passaient en bas de son immeuble. Et puis elle a par ailleurs rencontré les protagonistes de son court-métrage « Au loin Baltimore » qu'elle a sorti en 2015 alors qu'elle prenait des cours à la Fémise à l'époque, l'école de cinéma. Donc elle connaît ce milieu absolument. Elle avait envie de faire un long métrage sur cet univers, sur ce rodéo. Et ouais. Et voilà. 1h45, je l'avais dit, je pense.
Ouais, avec la bande-annonce qui est assez courte d'ailleurs.
Ok. Ma foi, si tu l'as.
Je l'ai.
Merci.
Ça signifie quoi, ton tatouage ?
T'as mes histoires.
C'est quoi ici ? Pour taper les bécanes, pour plaquer les numéros ?
Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit.
Quand on dirait une Amazon bâtard, on dirait elle va niquer des mères.
C'est la nouvelle poule aux odeurs, les gars.
Rodéo, donc, à l'instant, la bande-annonce présentée par Anne, ce film donc qui a fait l'actualité à Cannes et maintenant dans nos salles. Et nous passons tout de suite à Walden. Ah, tiens, Anne. Je ne t'entends pas, Anne. Ah oui, pardon.
Parce que ça me semblait important. Et elle nous dit, la réalisatrice, qu'on a eu presque 200 candidatures. Il y a plus de 150 personnes qui se sont déplacées à Paris pour passer le casting. Donc, ça intéressait énormément de monde pour jouer dans ce film. Voilà.
D'accord.
On quitte le rodéo.
On quitte le rodéo pour aller un peu plus vers le nord.
T'es d'accord ? Il est d'accord.
Ouais, je suis d'accord.
Et ah ben alors il est d'accord. Ah ben voilà. Eh ben voilà, tu vois, quand même, c'est bien que tu sois d'accord. Alors maintenant, on va parler de quoi alors ? Est-ce que tu veux Walden ?
Ah, si tu peux me parler de Walden, je serai tout ouï.
Ah, voilà. Tu veux bien, hein ? Bon, alors Walden, ça veut dire, en fait, si on traduit, hein, c'est un lac, hein, de l'eau, un lac. Ça dure 1h25, c'est un drame français et il y a la Lituanie qui s'est proposée, là, avec la France. Et c'est réalisé par une réalisatrice, scénariste, actrice tchèque qui s'appelle Božena Horáková. Elle a 43 ans de carrière et 9 tournages à son actif. Alors, elle a travaillé avec pas mal de scénaristes, là, quand même. Il y a eu Bertrand Schaeffer, il y a eu Marc Cholodenko, il y a eu Julien Thèves avec elle, il y a eu François Promomides, voilà, qui ont travaillé sur ce film Walden. Oh, on va tout de suite dire de quoi il s'agit, hein, quand même. Après 30 ans d'exil à Paris, Jana revient à Vilnius. Elle veut retrouver le lac que Paulius, son premier amoureux, appelait Walden. Chronique de la jeunesse lituanienne d'avant la chute du bloc communiste où, entre premiers émois et marché noir, les rêves de liberté s'incarnent à l'ouest. C'est pour ça que je voulais absolument en parler de ce film parce que je trouvais que ça valait la peine. On a Ina Maria Martit, qui est une actrice lituanienne. Alors elle, c'est un drame terrible parce que elle est décédée dans un accident de voiture le 7 avril 2021, après le tournage. Elle avait 24 ans. Ina Maria Martit, qui est une actrice lituanienne. Donc c'était très triste là, voilà, pour tout le monde là-bas. Et puis, parce qu'elle était, elle représentait quelque chose dans le cinéma lituanien. Elle joue d'ailleurs le rôle là, de Jana, lycéenne. On a, on a Laurinas Jurgelis aussi, qui est un acteur lituanien, qui joue Paulius, parce qu'on en parle dans le synopsis. On a Mantas Jankioskas, qui est un acteur lituanien dans ce film également. On a Nelle Savichenko, qui est une actrice lituanienne. Et on a une actrice française qui s'appelle Fabienne Bab. On la connaît, Fabienne Bab, quand même. Enfin, quand on la voit, de toute façon, on la reconnaît. Fabienne Bab, on l'a déjà vue dans pas mal de films. Et elle joue le rôle de Jana adulte. Puisqu'il y a deux représentations de Jana dans le film, quand elle est lycéenne et quand elle est adulte. Et on a Andrzej Szyra, qui est un acteur polonais également, dans les rôles principaux. Alors, la réalisatrice nous dit, quand elle parle du film, elle dit que c'est une éloge de la fuite. C'est un film sur les décisions qu'on prend et qui changent notre vie. Alors évidemment, le contexte politique lituanien de 1989 reste hors champ, hein, parce que elle s'intéresse, ce qu'elle trouvait intéressant, c'était avant tout de filmer les rêves de liberté de ces jeunes protagonistes. Je ne voulais pas filmer la fin du bloc de l'Est, dit-elle, mais ce que c'était que d'être jeune à Vilnius à ce moment-là. Comment le contexte politique intervient dans leur vie? Voilà pourquoi je trouvais que c'était intéressant, ce film.
Ouais. Un film politique, c'est toujours courageux à sortir.
Finir, alors.
Et on va finir avec un film. Alors, oui, pardon, excuse-moi. Dernier film, c'est ça?
Mais oui, pour finir, ma foi.
Pour finir, Plan 75. Qu'est-ce que c'est?
Ah là là, alors ça c'est autre chose.
Ça a l'air d'être...
c'est simple, j'ai lu une des critiques qui dit que c'est un sujet brûlant, le vieillissement au Japon, aussi délicat que terrifiant, en parlant du film. Terrifiant, c'est le mot terrifiant que je garde parce qu'effectivement, c'est terrifiant, ouais. Je trouve. Bon, c'est du drame, c'est de la science-fiction, hein. Ça dure 1h52. C'est une coproduction quand même japonaise, française et philippine. Donc, il y a un prix et 7 nominations au Festival de Cannes 2022. C'est la Caméra d'Or, mention spéciale. C'est très, très, très joli comme prix, ça. Absolument. Alors, c'est réalisé par Chi Hei. Alors, c'est une japonaise. Alors, je vais essayer de ne pas trop abîmer son nom. Chi Ayakawa. Je commençais mal parce que c'est Ayakawa. Chi Yakawa, réalisatrice, scénariste, auteure, dialoguiste japonaise, elle a 46 ans. Et je vais lire l'histoire, parce que c'est terrible. Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s'accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d'un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et Et ce gouvernement met en place le programme Plan 75 qui propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au Plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontées à un pacte mortifère. Est-ce que tu as bien entendu l'histoire, Mathieu?
Ah oui, j'ai bien entendu l'histoire.
Voilà, t'as vu? Est-ce que tu vois pourquoi j'ai dit que c'était terrifiant, entre autres?
D'autant que ce qui est terrifiant, c'est que c'est une vraie problématique.
Ouais. C'est titré terriblement incandescent, bouleversant, frappe fort et touche juste. Ah oui, c'est un film. Type Plan 75, effectivement, est un film d'anticipation et qu'il n'existe pas de système d'euthanasie au Japon, hein, quand même. La réalisatrice, c'est toutefois appuyer sur l'intolérance dans son pays envers les personnes socialement faibles, y compris les personnes âgées. L'idée de ne déranger personne est une notion forte au Japon, nous dit, qui pèse encore plus sur les personnes âgées qui ont le sentiment d'être inutiles et d'être un fardeau pour la société. Alors, Plan 75, dit-elle, n'existe pas dans la réalité, mais tout ce qui est décrit dans le film existe, comme le fait qu'un grand nombre de personnes âgées doivent travailler en raison de l'insuffisance du système de retraite. Elles ont du mal à trouver un logement, elles se sentent mises à l'écart de la société et elles hésitent à recourir à l'assistance sociale en raison d'un sentiment de honte. L'intolérance, l'apathie et le manque d'imagination face à la douleur des autres sont les choses les plus menaçantes que je veux dépeindre dans ce film, nous déclare la réalisatrice. Son intention n'est pas de prendre particulièrement pour cible l'ultralibéralisme, mais de critiquer une société qui donne la priorité à l'économie et à la productivité sur la dignité humaine. Éliminer, dit-elle, ce qu'ils appellent les improductifs est un concept très proche du fascisme. Bien que nous n'ayons pas de dictateur, une telle atmosphère peut émerger spontanément parmi les gens. Ouais, c'est ce qui me fait peur, dit-elle. Voilà.
Et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de bascule, à force de rationaliser une société.
C'est terrible.
Voilà. C'est les algorithmes, les intelligences artificielles. On enlève l'empathie et on rationalise.
Elle s'est appuyée aussi sur un fait divers qui est survenu en 2016 et qui l'a marqué énormément. Dans un établissement pour personnes handicapées, un ancien employé du centre, Satoshi, âgé alors de 26 ans, a assassiné à coups de couteau 19 résidents et en a blessé 25. Il revendiquait l'euthanasie pour les personnes handicapées inutile, selon lui, à la société. Elle a été marquée par ce fait divers, tu m'étonnes, un fait divers épouvantable. Mais chérie, ça fait frémir. Ça fait absolument frémir d'horreur, en fait. Et dans un monde où la priorité est à l'économie, dit-elle, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a en fait de nombreuses personnes qui partagent cette idée. Oh là là, dans notre société, nous blâmons et excluons les personnes socialement vulnérables. Pas seulement les personnes handicapées, mais aussi les personnes âgées et les pauvres. C'est terrible, je comprends maintenant pourquoi j'ai lu que c'était sensible et terrifiant. Effectivement, c'est tout à fait ça. Mais c'est très bien fait, hein. C'est vraiment, c'est délicat. C'est fait d'une façon extrêmement délicate. Mais ça frappe fort, effectivement, comme je disais tout à l'heure. Et ça touche juste. Voilà.
Mais c'est aussi la mission du cinéma.
Désolée d'avoir de terminer par... Mais moi, je pense que quand même, on est sensibilisé à ce problème-là des personnes âgées, des handicapés, etc. Et qu'on voudrait, nous, au contraire, nous, ce qu'on voudrait, c'est les aider un maximum, être au plus près de ces gens-là, justement. Donc ce film est intéressant pour voir un peu le contraire de ça, de ce que nous, on pense, en tout cas en France, en tout cas, j'espère que c'est pareil partout en Europe, mais en France, c'est sûr que nous, on est derrière ces gens-là, les personnes âgées, les handicapés, etc., les personnes démunies, on est quand même derrière, quoi, il n'y a pas de doute. Hein. Voilà, ma foi.
Ouais, eh ben, ben voilà, ça y est.
Ouais, c'est quand même à voir. Pour comprendre qu'il peut arriver, que tu as dit ça tout à l'heure, Mathieu, qu'il peut arriver des choses terribles dans les années à venir.
Plus vite qu'on ne le pense.
Absolument, voilà, plus vite qu'on pense et qu'il faut absolument les empêcher, ces choses-là, évidemment. Évidemment. Donc, il faut les prévoir et voilà. Il faut faire barrière. Bien, eh bien, on va se quitter alors, non ?
Eh bien, exactement, ça y est. Midi arrive, c'est l'heure de manger.
Voilà, c'est l'heure de manger. Ben, je te souhaite une bonne semaine, Mathieu. Je te dis à la semaine prochaine.
Et oui, à la semaine prochaine.
Et puis, mes petits chéris, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Hein. Essayez d'être heureux. Tant pis pour la météo, on s'en fiche. Hein. Qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, peu importe. L'essentiel, c'est de vivre sa journée le mieux possible, carpe diem. Hein. Et puis, voilà. Et puis, prenez soin de vous et de votre entourage, bien sûr, comme d'habitude, hein, comme toujours. Et puis, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence.
Thank you.
bons yeux, tu sais.
Nous attache à certains lieux. Ok, mais nostalgie à part, explique-moi un peu. Quel mérite et quelle fierté peut-on donc avoir à être né quelque part et non pas autre part? Quand on raconte sans honte qu'on vient d'un pays de cons, ne supportant pas qu'on ne parle pas un peu de chez eux, y'a des gens qui se vexent et nous pointent de l'index, nous disent non, non, c'est chez nous qu'on est les plus cons. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nom?